Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie.
Salut à tous, c'est Jérémy Royaux pour Scepticisme Scientifique. Aujourd'hui, je suis avec Kenzo Nera. Salut.
Bonjour.
Voilà, Kenzo, donc tu es doctorant en psychologie sociale à l'Université Libre de Bruxelles. Et tu vas nous parler aujourd'hui de recherche sur le conspirationnisme notamment, mais pas que. Voilà, je te laisse te présenter un petit peu pour les auditeurs et nous expliquer un peu plus en détail de quoi on va discuter.
C'est ça, merci Jérémy. Tu as dit à peu près tout ce qu'il fallait par rapport à moi. Donc, je suis doctorant en psychologie sociale à l'Université de Bruxelles, l'Ukraine. Et j'étudie les liens entre identité collective et croyances complotistes, à la lumière d'une théorie de psychologie sociale qui s'appelle la théorie de l'identité sociale. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette théorie parce que ce n'est pas vraiment de ça en fait que parlera ma présentation. Mm-hmm. Cette présentation. Initialement, l'idée que j'avais, c'était de présenter une recherche comme j'aurais pu le faire dans un congrès. Néanmoins, je me suis rapidement dit que ça pouvait poser problème parce que l'audience d'un podcast sur YouTube n'est pas du tout la même que celle dans un congrès de psychologie sociale. Et étant donné qu'on est sur YouTube, il y avait de bonnes chances pour que si je n'apportais pas un certain nombre de précisions et de clés de compréhension de la recherche en psychologie sociale, j'allais me faire crucifié sur la place publique pour mes propos simplificateurs, etc., sur les conspirations. Okay. Donc, plutôt que de faire une présentation de mes travaux, je me suis dit que ça pouvait être une occasion intéressante de donner aux auditeurs des clés de compréhension, en fait, de la recherche en psychologie sociale sur la question de la théorie du complot. Donc, j'ai appelé ça une introduction autocritique, parce que je vais apporter donc des éléments de contextualisation, des éléments de définition et des éléments de méthodologie pour comprendre comment fonctionne la recherche en psychologie sociale sur le conspirationnisme. Je vais aussi soulever un certain nombre de questions qui m'habitent quand je réalise toutes ces recherches. Et évidemment parler des avantages, des limites de ce type de méthodologie dans l'étude des théories du complot. Et ensuite, si on a le temps, je suppose qu'on aura le temps, je présenterai donc une recherche que j'ai qui est pour le moment en cours de révision mineure dans une revue scientifique. Donc là, ce sera vraiment la partie où je parlerai de mes travaux. Okay. Donc là, ceci, on l'a déjà vu, c'est moi. Je pense que la première chose que j'aimerais faire, c'est genre quelques petites mises au point en préambule. La première, c'est que le conspirationnisme, c'est un objet d'étude assez particulier pour un chercheur, parce que, contrairement à énormément de sujets de recherche, c'est un sujet sur lequel à peu près tout le monde a un avis. C'est-à-dire que c'est un sujet dont on parle énormément dans les médias, on en parle sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un sujet de conversation et un objet social assez saillant actuellement. Ce qui fait que quand on arrive en tant que chercheur sur la question et qu'on essaye d'apporter notre avis argumenté sur la question, on sera toujours d'autres sujets, comme par exemple sur le féminisme, on apportera notre avis et on sera confronté à des gens qui, en gros, vous expliqueront que vous n'avez rien compris à votre sujet de recherche et que eux vont vous expliquer comment il faut faire. Donc ouais. Ça, c'est une espèce d'élément de contexte à prendre en compte pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on vit la recherche sur le conspirationnisme de l'intérieur. Une deuxième mise au point, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent quand on parle de notre recherche en tant que psychologue, c'est que très souvent, les gens considèrent que l'aspect psychosociologique, c'est secondaire en réalité, parce que les théories du complot ce qu'on veut, enfin les gens qui s'intéressent à ça, leur préoccupation évidemment, c'est la question de la vérité, c'est genre qui a raison dans cette histoire. Et finalement, il y aura peut-être presque une façon d'être méfiant par rapport aux approches psychologiques de la question, parce que ça voudrait dire qu'on veut faire passer les conspirationnistes pour des gens qui sont irrationnels, etc., etc. Mm-hmm. Et en réponse à cette méfiance, on va dire, on peut souligner, je pense, en tant que psychologue social, que la question de la vérité est en réalité en dehors de notre champ de compétence. C'est-à-dire qu'on peut prendre position là-dessus en tant que citoyen, en dehors de notre expertise, mais par définition, en tant que psychologue, nous, on s'intéresse à ce que les gens croient et à ce qu'ils croient être vrai. On s'intéresse pas à ce qui est réellement vrai. Donc ça, c'est une question qui est pour les historiens et les journalistes d'investigation. Les psychologues sociaux s'intéressent au processus d'adhésion. Et en troisième lieu, la troisième petite mise au point, mais qui est liée à la précédente, c'est un rappel de quelque chose qui est vraiment tout à fait très à ces questions, mais qui n'est pas évident pour tout le monde, c'est que le raisonnement humain, il est en réalité intrinsèquement biaisé, et la question de la vérité, elle est secondaire, en fait, dans l'explication de nos croyances et de nos convictions. Et donc, en ce sens-là, quand on est psychologue social et qu'on dit que les individus sont biaisés dans leur adhésion aux théories du complot, ce n'est en réalité pas si péjoratif que cela, parce que c'est en réalité le cas d'à peu près toutes les croyances et toutes les convictions qu'on peut avoir. Donc ça, c'est trois petites mises au point, mm-hmm. auxquelles j'ajoute une espèce d'avertissement concernant des écueils dans lesquels, je pense, il faut essayer d'éviter de tomber quand on étudie les théories du complot. Un écueil que j'ai appelé l'écueil positiviste et de l'autre côté, à l'opposé, l'écueil relativiste. Cet écueil positiviste, ce serait ce qu'on pourrait appeler une vision pathologique du conspirationnisme, c'est-à-dire en arriver à la conclusion que croire aux théories du complot, c'est une question finalement d'irrationalité, de manque d'éducation, de biais cognitifs, de sophisme, de raisonnement motivé, d'aveuglement idéologique, etc. C'est une vision qui est assez commune en fait, qui est caricaturale mais assez commune, et c'est une vision qui amène à négliger en fait le rôle de certains facteurs sociopolitiques qui peuvent influencer l'adhésion à ces croyances. On en parlera peut-être plus tard, mais il y a toute une série de facteurs vraiment qui renvoient aux relations de la société, par exemple aux inégalités, aux rapports de pouvoir dans la société, qui sont des facteurs qui sont associés à l'adhésion à ces croyances. Et avoir une vision trop pathologisante du phénomène, ça amène à négliger ces facteurs-là. Et par ailleurs, cette vision pathologique des théories du complot, ça nous fait rater, on va dire, l'occasion de s'interroger sur la construction du savoir dit officiel. Parce que les institutions scientifiques sont des institutions humaines, et la construction du savoir scientifique, c'est une entreprise humaine, et que, évidemment, comme n'importe quelle entreprise humaine, il ne faut pas trop les idéaliser, même si, évidemment, il ne s'agit pas de mettre le conspirationnisme et l'approche scientifique des phénomènes sur un même pied d'égalité. Mmh. Et donc, il faut éviter, en somme, je pense qu'un travers à éviter, c'est genre présenter un petit peu le conspirationnisme comme l'ultime repousseur intellectuel qui s'opposerait de façon un petit peu manichéenne à la science avec un grand S. Et de l'autre côté, vraiment à l'opposé polaire de cette vision, je dirais, c'est aussi une vision que personnellement je rencontre relativement souvent quand j'interroge les participants à mes études, ou alors quand je discute tout simplement avec les gens sur les réseaux sociaux, c'est une vision qu'on pourrait qualifier de romantique. C'est-à-dire, c'est un petit peu cette idée que la théorie du complot, c'est la croyance du faible contre le fort, et que la théorie du complot, c'est tout simplement l'idée du faible qui dérange le pouvoir, qui veut rester au pouvoir. On glisse assez facilement dans une espèce d'opposition entre dans une vision du monde, l'opposition entre savoir scientifique et croyances conspirationnistes, ce serait en fait rien d'autre que le reflet de relations de pouvoir à l'œuvre de la société. Et les conséquences, dans un podcast sceptique, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce que c'est une vision qui est porteuse d'un relativisme, je pense, assez délétère, parce que dans une telle vision des choses, l'expertise scientifique ne devient rien d'autre qu'un alibi du pouvoir, en fait. Et par ailleurs, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est aussi une vision qui est largement contredite, en fait, par l'état de la recherche actuelle. Okay. Donc, maintenant que ces bases, on va dire, sont posées, je pense qu'on peut s'attaquer vraiment au cœur du sujet. Déjà, l'étude des théories du complot et du conspirationnisme dans la recherche en psychologie sociale. Pardon. Ce qui est intéressant, c'est que les théories du complot, c'est quelque chose, on a tous un petit peu des idées sur ce que c'est, mais définir ce que c'est qu'une théorie du complot, c'est quelque chose qui pose rapidement problème, et en tout cas, je crois qu'il y a un consensus. S'il y a un consensus sur la question, c'est que c'est sur le fait que c'est compliqué de définir ce que c'est exactement une théorie du complot. En psychologie sociale, on utilise souvent une définition purement psychologique, comme celle que j'ai écrite ici, sans la traduire parce que j'ai pas eu le temps, qu'une théorie du complot, ce serait une croyance, se réunit en secret et se met d'accord pour poursuivre un objectif caché qui est perçu comme illégal, voire malveillant. Donc ça, c'est une définition psychologique dans le sens que c'est vraiment une croyance, c'est la description d'une croyance sans considération pour le rapport entre cette croyance et la réalité, on va dire, réalité objective. C'est vraiment, genre, voilà, c'est croire que ceci. Et donc, c'est une façon d'évacuer la question de la vérité que je mentionnais plus tôt. C'est une définition qui est largement utilisée et qui est opérante jusqu'à un certain stade, mais elle n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, notamment que, étant donné qu'elle évacue la question de la légitimité ou de l'illégitimité des croyances, elle se retrouve, c'est une définition qui est en rupture avec la compréhension commune du concept, en fait, parce que dans le langage courant, une théorie du complot, c'est une croyance mal argumentée, fausse, percue de biais de sophisme, etc. Par ailleurs, c'est une définition qui élude complètement la question du rapport avec les autorités épistémiques, et donc avec la fameuse version officielle. Et un gros problème avec cette définition, c'est qu'en réalité, c'est une définition qui inclut aussi les vrais complots. Par exemple, Al-Qaïda qui fomente les attentats du 11 septembre, ça tombe, ça correspond parfaitement à cette définition. Donc, en gros, c'est une définition qui inclut la version officielle de certains événements. C'est un petit peu un obstacle quand on essaie de définir ce que c'est qu'une théorie du complot sans considération pour ces aspects d'opposition à la version officielle. Donc, il y a d'autres auteurs qui, eux, tentent d'apporter une définition, on va dire, plus spécifique de la théorie du complot, avec notamment un critère de démarcation qui inclut cette dimension d'illégitimité de la croyance conspirationniste. Et, par exemple, Robert Brotherton, il propose que la théorie du complot, elle postule l'existence d'un complot là où d'autres explications seraient plus plausibles, parce que, par exemple, plus parcimonieuse, elle mobiliserait moins d'agents, etc. La théorie du complot, par ailleurs, souvent s'oppose au consensus au sein des autorités épistémiques, donc les autorités journalistiques ou universitaires. Et elle reposerait sur un faible niveau de preuve, elle renverrait une image des conspirateurs comme une espèce d'entité omnipotente et extrêmement malveillante, et ce serait des croyances irréfutables. C'est une définition qui est beaucoup plus précise et qui, personnellement, me satisfait davantage. Le problème, c'est que l'évaluation de la plausibilité et du niveau de preuve, c'est quand même quelque chose de relativement... C'est quelque chose qui, une fois qu'on s'intéresse au cas particulier, devient vite assez compliqué, et il y a vite des zones de flou qui se dessinent.
Ouais.
Ok.
en gros, on retrouve exactement les mêmes problèmes pour la démarcation qu'on a pour la démarcation entre les sciences, les pseudosciences ou les protosciences, en fait. Ouais. Ces démarcations des phénomènes sociaux, en fait, ou psychologiques, elles sont très difficiles parce que on peut pas observer physiquement une frontière très délimitée quelque part, et on peut jamais qu'avoir des critères qui sont des guides jusqu'à un certain niveau de précision, mais ça reste imparfait, évidemment.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, enfin moi, cette analogie justement entre théorie du complot, la question de l'opposition entre science et pseudo-science, c'est vraiment quelque chose qui revient perpétuellement. En fait, c'est vraiment, pour moi, étudier les théories du complot, c'est indirectement s'intéresser à la question de la connaissance scientifique en réalité. Parce que si on ne s'intéresse pas à cette question-là, on s'intéresse juste à des oppositions de points de vue sans vraiment se creuser la question de qu'est-ce qui fait que tel point de vue est, entre gigantesques guillemets, objectivement meilleur qu'un autre, en tout cas au point de vue des arguments qui sont mobilisés.
Ouais, et ça demande vraiment d'engager le débat, comme tu dis, parce que sinon, on se retrouve à un moment où on est en fait dans des jugements subjectifs, parce que des preuves pour défendre l'existence de complots non vérifiés, non vérifiables actuellement, bah, il y en a, comme il y a des preuves de l'existence du paranormal ou de la télépathie ou je ne sais pas quel autre phénomène. Mais après, la question, c'est de voir est-ce que ces preuves sont suffisamment convaincantes ou fiable. Et là, ben, c'est un débat qui est en partie subjectif et on ne peut pas toujours le trancher. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Enfin, je vois ça en tout cas chez les rationalistes. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont cette idée que on peut toujours trancher si une chose est vraie ou fausse, si elle est valide ou invalide. Alors, et je pense que ça peut être vrai dans certaines disciplines, hein. Si tu regardes la température d'ébullition d'un produit, bah effectivement, il y a une température précise. Mais après, quand tu regardes des phénomènes sociaux, psychologiques, en fait, parfois, on ne sait pas exactement définir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai avec précision. Et j'ai l'impression que c'est difficile pour le public, en tout cas, de comprendre ça, en fait, de comprendre que cette frontière, elle n'est pas toujours très très nette.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qui fait toute la complexité aussi de ce questionnement. C'est, comme tu dis, sur certaines questions vraiment scientifiques-techniques, là, il y a, on va dire, justement, l'autorité des scientifiques qui est là pour trancher. Il y a un paquet de théories du complot qui s'attaquent frontalement à un consensus scientifique. Celle-là, c'est relativement facile de les déconstruire. En revanche, si on part sur le terrain vraiment de la politique internationale et de la géopolitique, ben là, typiquement, c'est vraiment des terrains sur lesquels tout ce qui est plausibilité, force des preuves et tout ça devient très très compliqué et assez nébuleux.
Ouais, tout à fait.
Et un autre problème avec cette définition, c'est que une définition qui ne colle pas vraiment avec ce qu'on mesure quand on étudie ça en psychologie. Ah oui, et donc on peut aussi définir ce que c'est que le complotisme, le conspirationnisme en contraste avec ce que c'est une théorie du complot. Bah, en psychologie sociale, c'est assez simple. En fait, ce qu'on a constaté, ce qu'on constate depuis le début des recherches sur la question, c'est que généralement, rapporter une adhésion plus ou moins forte à une théorie du complot ou une croyance conspirationniste particulière, généralement c'est un prédicteur assez puissant de l'adhésion à d'autres. Et donc, ça fait que c'est comme si souvent les croyances conspirationnistes viennent en groupe. Et donc, le conspirationnisme, ça désigne un petit peu, ça désignerait une tendance générale et relativement stable à croire ou du moins à juger plausible un certain nombre de théories du complot particulières. Et ce n'est pas forcément un défaut de raisonnement, c'est-à-dire que si vous avez par exemple la conviction que les autorités sont complètement pourries et qu'elles cachent la vérité sur tout et que vous êtes convaincu qu'elles ont fait une saloperie quelque part, bah, assez mécaniquement, en fait, le fait qu'elles aient pu avoir le même genre de comportement dans votre registre devient tout à fait plausible. Donc ça, c'est pour le conspirationnisme. Oui, il y a plein d'autres questions, parce que la question des définitions revient sans cesse sur la table. C'est aussi un lieu de malentendus et de crépage de chignons assez intense dans le monde académique, on va dire. Et il y a même si c'est plus marginal, un débat sur la pertinence même de la notion de théorie du complot. Et en fait, la recherche que je te présentais tout à l'heure porte un petit peu là-dessus. Avec donc des gens qui disent que les théories du complot, c'est quelque chose qui est suffisamment homogène pour être étudié en tant que tel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche généraliste, qui est genre l'approche de la large majorité des chercheurs quand même, et en tout cas en psychologie sociale. Et d'autres personnes qui, eux, ont une approche qui sont plus particulariste, qui, eux, ils récusent un petit peu l'idée que les théories du complot, ça puisse être quelque chose d'homogène. Et pour les tenants de cette approche, il faut vraiment faire du cas par cas et regarder un petit peu dans le détail chaque accusation. Mais ça ne nous explique pas, une fois qu'on a défini tout ça ne nous explique pas concrètement, quand une recherche en psychologie sociale et se penche sur les croyances conspirationnistes, comment est-ce qu'elle mesure la chose en question? Parce que la psychologie sociale, en fait, genre, de façon dominante, pas du tout exclusive, mais la psychologie sociale a tendance à reposer sur des méthodologies quantitatives et des analyses statistiques. Et les psychologues sociaux, ils créent des modèles causaux ou genre, une variable. Par exemple, ici, ben, j'ai mis un exemple que presque tout le monde connaît, et la proximité aura un impact, une influence quantifiable donc sur un phénomène étudié. Et le cas que je vous propose ici, c'est la soumission à l'autorité. Et donc des expériences de 1000 grammes, évidemment. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'on quantifie quelque chose d'aussi complexe qu'un processus social ou qu'une catégorie de croyances. L'exemple de 1000 grammes, il est dit de la soumission à l'autorité et il a mesuré, par exemple, le voltage, il a mesuré le nombre de chocs électriques que les gens acceptaient d'administrer à la victime qui était en réalité un complice. Et c'était une façon, par exemple, de quantifier le processus étudié. Dans le cas des théories du complot et des croyances de façon générale, ce qu'on fait généralement, la plupart des gens le savent, je pense, c'est des échelles c'est des croyances autorapportées. Donc on demandera aux gens de donner leur accord avec un certain nombre de propositions et on leur dira, de se positionner sur une échelle allant de 1, qui signifierait pas du tout d'accord, à 7, qui signifierait totalement d'accord. Et sur base de ça, on crée les indicateurs qui permettent de caractériser chaque participant, chaque répondant à un questionnaire, et de situer ce participant par rapport à la moyenne, et l'écart-type du pool de participants. Désolé, ça devient un petit peu technique, mais ça ne le restera pas très longtemps. Et partant de là, donc, les croyances conspirationnistes et les croyances en théorie du complot en psychologie sont mesurées par le biais de croyances de style. Et il y a plusieurs façons de faire. Il y a par exemple des inventaires de croyances conspirationnistes. Ça prend un petit peu la forme d'un top 10, par exemple, des théories du complot, où on va demander aux gens de rapporter leur adhésion à une série d'affirmations qu'ils ont qui reflètent une théorie du complot. Par exemple, ici, j'ai un exemple d'inventaire de croyances conspirationnistes, où on demande aux gens de dire s'ils croient à la phrase un groupe puissant et secret connu sous le nom de Nouvel Ordre Mondial projette de diriger le monde à travers la mise en place d'un gouvernement autonome mondial qui viendrait remplacer le gouvernement souverain. Voilà, ça c'est un exemple de façon de mesurer la croyance en théorie du complot. Il y a d'autres approches qui reposeront davantage sur des items décontextualisés, donc c'est des phrases beaucoup plus générales en fait qui ne portent pas sur des croyances particulières. Par exemple, le pouvoir détenu par les chefs d'État est secondaire comparé à celui de petits groupes inconnus qui contrôlent réellement la politique mondiale. Et à un niveau encore plus général, il y a des échelles de ce qu'on appelle les mentalités complotistes ou conspirationnistes. C'est quelque chose que je n'aime pas trop personnellement, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Et là, c'est vraiment des questions extrêmement, extrêmement générales, parfois des événements qui en apparence ne semblent pas avoir de lien sont souvent le résultat d'activités secrètes et tout ça est donc c'est à chaque fois un exemple d'item dans toute une série qui permet de quantifier. C'est quelque chose qui est bizarre à dire en fait, même comme ça à voix haute, c'est genre ça permet de quantifier le niveau de croyance conspirationniste des gens. Mmh. Et plus particulièrement de classer les participants à une étude en allant du moins conspirationniste au plus conspirationniste. Et partant de là, les études en psychologie sociale sur la question du conspirationnisme, mais aussi sur n'importe quelle question en fait, elles pourront être de deux types. Le premier type, c'est genre des études corrélationnelles où là, on va mettre en évidence un lien entre des variables. Par exemple, entre croyances conspirationnistes et, pour prendre un exemple connu et réel, genre, et niveau d'éducation. Genre, il y a une corrélation négative, légère, entre croyances conspirationnistes et niveau d'éducation, de telle sorte que, avec l'augmentation du niveau d'éducation, les gens ont tendance à scorer plus bas sur les échelles de théorie du complot. Mais je mets par exemple deux exemples qui viennent de l'étude que je vais présenter après. C'est le lien entre croyances conspirationnistes génériques, donc un inventaire vraiment de croyances conspirationnistes, et ce que j'ai appelé dans la recherche la métathéorie du complot. Et la métathéorie du complot, en fait, c'est la croyance que l'utilisation de l'expression théorie du complot, en fait, est en lui-même un complot des élites qui vise à discréditer les idées qui dérangent, par exemple. Et donc, on voit qu'il y a une corrélation très forte, c'est genre le graphique de droite, où, en gros, ça veut dire que le score de croyance conspirationniste est très fort, est très indicatif du score qu'on aura sur l'autre variable. Par contre, pour le cas des croyances conspirationnistes et d'orientation politique, on observe une corrélation très faible.
J'en profite pour te poser une petite question, parce qu'à mon avis, il y a pas mal d'auditeurs qui ont dû se la poser en t'entendant. Dans le mouvement sceptique, on entend souvent une idée qui, je pense, est assez ancienne, à mon avis, qui doit venir d'une référence d'une petite mini étude d'Henri Brock à son époque, qui montrait que, si ma mémoire est bonne, au plus les étudiants les personnes avaient un haut niveau d'études, au plus ils avaient des croyances justement paranormales. Alors c'est pas exactement conspirationniste, mais je me rappelle que l'idée derrière ça, c'était que les personnes qui ont pas un haut niveau d'éducation ne sont pas exposées à un ensemble de croyances possibles, et donc en fait ils se posent pas la question de savoir est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, tandis que les gens qui ont un peu plus d'éducation, qui vont à l'école à un niveau plus élevé, l'existence de toute une série de croyances, et je me demandais s'il y avait quelque chose de similaire avec le conspirationnisme. Est-ce qu'on a étudié les personnes, par exemple, qui sont dans des milieux ruraux, qui font pas d'études du tout, etc.
De façon générale, dans les études que je rapporte, je parlais du niveau d'éducation à l'instant, il y a une corrélation, mais elle est assez faible. Et la référence que tu te donnes, il me semble que c'était une courbe en cloche, c'est-à-dire que les gens qui ont un niveau d'éducation, et quand je dis niveau d'éducation, évidemment, ça veut dire c'est le niveau du diplôme, hein, c'est pas genre que les gens sont pas éduqués. C'est que donc les gens qui ont un très faible niveau d'éducation n'endossent pas ce genre de croyances, et puis ça monte, et puis passé un certain niveau, ça commence à redescendre. Si je me souviens bien, c'est ça que disait Séché. Cela dit, j'ai jamais retrouvé l'étude en question non plus.
Oui, elle a un peu une sorte de caractère un peu mythologique comme ça. Je me rappelle avoir lu ça sur le blog d'Henri Brock, mais c'était pas une étude, c'était un billet de blog, à mon avis, avec un sondage qu'il a fait avec des étudiants. Donc voilà, ça vaut, mais je voulais en parler parce qu'il y a souvent des gens qui citent cette espèce de truc un peu mythologique. Et voilà.
Mais sur la théorie du complot, le problème, c'est que ça, pour le coup, on parlait justement de est-ce qu'on peut considérer ça comme un truc homogène. La recherche montre qu'il y a des points communs, mais il y a aussi, il faut prendre garde à pas trop homogénéiser le truc. C'est-à-dire que je sais que sur certaines théories du complot, le niveau d'éducation est absolument pas corrélé. Par exemple, sur tout ce qui est lié à la vaccination, on trouve énormément de personnes très éduquées, apparemment. Et aussi le niveau socio-économique qui adhère aux théories anti-vax. Par contre, pour d'autres, encore une fois, si on considère vraiment ces croyances conspirationnistes génériques telles qu'elles sont mesurées, on trouve généralement une légère corrélation avec le niveau d'éducation, mais on ne peut pas tirer de grosses conclusions parce que c'est léger. Mais cela dit, je ne pense pas qu'il n'y a pas de travaux qui montrent ce que tu disais, genre l'idée qu'au plus on monte dans le niveau d'éducation, au plus on adhérerait à ce genre de choses, ou alors le fait que les personnes qui ont un très faible niveau d'éducation n'y adhéreraient pas du tout. Ça, à ma connaissance, il n'y a rien qui montre ça.
Ok, merci.
Et donc ça, c'est pour les études corrélationnelles qui constituent une bonne partie du corpus. Et à côté de ça, il y a les études expérimentales qui sont souvent en fait des comparaisons de groupes expérimentaux. Et dans les études expérimentales, on ne postule pas seulement un modèle causal, on va aussi chercher un facteur causal pour vérifier la viabilité de notre modèle. Et là, je regrette de ne pas avoir écrit davantage de choses sur ce slide, mais je vais vous donner un exemple de tête. Par exemple, les chercheurs psychologues sociaux Daniel Jolley et Karen Douglas se sont demandé si l'exposition à des croyances conspirationnistes était susceptible de diminuer la volonté de s'impliquer politiquement. C'est-à-dire, par exemple, le fait d'aller voter, de manifester, de s'encarter dans un parti, etc. Okay. Et pour tester cette hypothèse, ils n'ont pas été faire une corrélationnelle, ils ont créé une situation expérimentale où la moitié, sur une base totalement aléatoire, la moitié des participants sont exposés à un texte qui explique qu'en gros, c'est une étude qui a lieu en Angleterre. Et la moitié des participants, donc, lit un texte qui explique que le gouvernement anglais est impliqué dans toutes sortes d'affaires complètement nébuleuses par rapport à la mort de la princesse Diana, etc. etc. Et dans l'autre groupe, on va justement essayer de faire diminuer l'adhésion aux croyances transpirationnistes en expliquant, en faisant lire un texte qui explique que le gouvernement est quand même un exemple d'intégrité. C'est pas exactement ce qui est dit, mais c'est dans cette idée-là. C'est l'idée de manipuler le facteur causal pour voir si on a la conséquence attendue, qui est ici une diminution de la volonté de s'impliquer politiquement, qui encore une fois, c'est aussi mesuré via des échelles de temps. Et après, on teste, on va statistiquement examiner si notre hypothèse est vérifiée en regardant la différence de moyenne entre les groupes. Et soit dit au passage, quand on examine une différence de moyenne, il ne faut jamais oublier qu'il y a que même pour les effets de grande taille, il y a énormément de, comme on le voit ici, d'overlap entre les deux groupes. Vous parliez de ça l'autre jour avec Pascal Wagner-Egger, que même quand on met en évidence une différence, il y a toujours énorme. Enfin, cette différence ne doit pas faire oublier qu'il y a beaucoup de superpositions entre les groupes.
Tout à fait.
Et donc voilà, ça c'est un petit peu vraiment, on va dire, à vitesse grand V, un tour d'horizon de comment est-ce que la psychologie sociale cherche à investiguer les théories du complot, donc essaie de façon de standardiser les mesures avec des échelles de croyances autorapportées et utiliser des méthodes statistiques de type corrélation, comparaison de moyennes, etc., pour essayer de tirer des conclusions par rapport aux conséquences, aux causes potentielles, de façon générale, l'adhésion aux théories. Là, je n'ai pas fait de revue littérature parce que ça aurait été vraiment trop expéditif, mais donc pour parler des avantages de d'une telle façon d'étudier le sujet, ou n'importe quel autre sujet, en fait, c'est que, étant donné que c'est un socle méthodologique commun, ça permet la constitution d'un corpus de connaissances, on va dire, collectivement produit, en fait. C'est-à-dire que contrairement à, par exemple, entre disciplines, il est parfois extrêmement dur de communiquer parce que les définitions qu'on utilise, les méthodes qu'on utilise ne permettent pas forcément d'agréger les résultats. Et ça permet, par exemple, alors que dans le cadre de la psychologie sociale quantitative, on peut avoir justement cette démarche d'agrégation du corpus de connaissances et éventuellement même faire des méta-analyses. Par exemple, l'année dernière, il y a une méta-analyse sur les liens entre croyances complotistes et des traits de personnalité qui est sorti et qui montrait que, en fait, il n'y a aucun lien significatif entre croyances complotistes et que ce soit agréabilité, consciencieusité, bref, ces grands traits de personnalité. Par ailleurs, un autre avantage, je pense, que c'est que la rigidité de ces méthodes, elle tend à limiter, à défaut d'éliminer, donc l'emprise du biais de confirmation du chercheur. Parce que c'est un sujet, je pense, sur lequel on a tellement d'a priori, comme je le disais avant de commencer à parler de la recherche, qu'on a tous des prénotions, des préjugés, des stéréotypes sur comment fonctionne les théories du complot. Évidemment, ça ne va en aucun cas, l'utilisation des statistiques ne va en aucun cas éliminer le biais de confirmation chez les chercheurs, parce que la manière dont on va formuler les hypothèses et les variables qu'on va décider d'étudier, ce sera influencé par la vision qu'on a du phénomène. En revanche, si votre étude ne fonctionne pas, si votre hypothèse est réfutée, au bout d'un moment, vous pouvez tirer la conclusion que ça ne fonctionne pas, en fait. Il y a par exemple, sur certains sujets, heureusement que c'est en français, parce que je serais en anglais, je me prendrais certains chercheurs sur la figure, mais sur la question, par exemple, du lien entre perception de pattern dans du bruit aléatoire, et croyance conspirationniste, c'est une hypothèse qui a beaucoup été testée. Genre, est-ce que le fait de voir des patterns organisés dans du bruit, par exemple dans une peinture de Jackson Pollock ou dans des séquences aléatoires. Est-ce que c'est lié au fait de croire davantage que le monde est contrôlé par des forces obscures ? Eh bien, il y a une ou l'autre publication qui est sortie positive là-dessus, mais là, pour le moment, il y a une espèce d'accumulation de résultats contradictoires avec ça. On est à la conclusion que, en fait, cette histoire de pattern, de perception de pattern aléatoire est vraiment questionnable, quoi. Et c'est, je pense, après, je ne veux pas mettre ma main coupée, mais que c'est une hypothèse qui finira par être abandonnée. Et enfin, et pour moi, en fait, c'est vraiment le truc le plus important, c'est que l'utilisation de sa méthode, c'est vraiment un appel à la prudence en réalité. Parce qu'on dit souvent que les statistiques et les maths, enfin que les modélisations, c'est quelque chose d'arrogant, mais l'avantage, c'est que ça nous rappelle sans arrêt qu'on ne parle que de tendances statistiques. Et qu'établir des relations de causalité, c'est très compliqué, et que même si on établit des relations de causalité, comme je le montrais juste avant, eh ben, généralement, on explique une très faible part de la réalité en mettant en évidence quelque chose qui est statistiquement significatif mais qui est très loin d'expliquer l'entièreté de ce qu'on observe. Et du côté des limites, on peut mentionner que l'utilisation, ça n'aura échappé à personne, je pense, pendant cette présentation, c'est que quand on mesure une variable comme on le fait, c'est une mesure extrêmement partielle, en fait. C'est un coup de sonde dans un phénomène extrêmement complexe et il y a énormément d'aspects du phénomène qui ne seront pas mesurés et pas capturés pour les échelles qu'on utilise. Je crois que c'est quelque chose de très important. Par ailleurs, un autre problème, c'est que les méthodes quantitatives, ça demande le recrutement d'échantillons relativement importants pour tirer des conclusions. Or, les personnes qui sont vraiment conspirationnistes, qui sont en réalité les gens qui les intéressent le plus, elles sont relativement rares dans les études, car elles sont moins accessibles, notamment parce qu'elles sont très méfiantes vis-à-vis de la recherche académique. Et donc, finalement, un questionnement qui habite un petit peu, en tout cas un certain nombre de chercheurs avec qui je discute, c'est genre, est-ce qu'on étudie vraiment pour ces études le conspirationnisme tel qu'on l'observe dans les cas vraiment les plus extrêmes, ou est-ce qu'on étudie juste des formes plus modérées en fait d'adhésion assez conditionnelle aux tests conspirationnistes? Après, et un troisième point, c'est que comme je le disais, enfin juste avant, je disais que il y avait un appel à l'humilité dans l'utilisation des statistiques et tout ça, mais c'était pas toujours vrai. L'utilisation de méthodes quantitatives, ça peut aussi s'accompagner d'un risque assez illusoire d'être objectif. C'est-à-dire, je pense que ça permet d'écarter partiellement certains risques de biais, mais si on devient extrêmement sûr de soi, sous prétexte qu'on fait des statistiques et ça peut se retourner en fait contre la crédibilité du. Peut-être pas la crédibilité du chercheur, mais on va dire contre son l'humilité dont il devrait faire. Et enfin, les échelles autorapportées qu'on utilise, ça ne nous dit pas vraiment si les gens croient fermement aux choses ou s'ils trouvent juste que c'est plausible en réalité. C'est-à-dire que, et ça, ce n'est pas sans implication, parce que juger plausible, par exemple, deux scénarios contradictoires pour un même événement, ça n'a pas du tout le. Enfin, ça peut être parfaitement rationnel. Par contre, croire fermement à deux thèses conspirationnistes contradictoires, là, pour le coup, ce serait quelque chose de complètement irrationnel. Et là, il y a eu, j'ai pas mis la référence, mais il y a eu il y a quelques temps, et déjà, 8 ans, je crois, genre une première étude qui a montré que voilà, il y avait une corrélation positive entre scénarios conspirationnistes contradictoires. D'un côté, on disait genre la princesse Lady Di était déjà, enfin Lady Di a été. Pardon. Osama Ben Laden était déjà mort quand les GI sont entrés dans sa cachette. Et l'autre croyance qui était genre en fait Osama Ben Laden n'est jamais mort et en fait il est toujours en vie. Et cette corrélation positive a vraiment interrogé les gens, en disant est-ce que les gens ils croient juste à des choses contradictoires. En fait, si c'est juste des scénarios plausibles, En fait, cette dimension irrationnelle s'évapore complètement. Donc, je ne sais pas si tu as des questions, en fait, par rapport... Parce que, enfin, je ne sais pas... Enfin, c'est peut-être un petit peu dense, c'est à la fois dense, et en même temps, j'ai l'impression d'aller 10 fois trop vite sur toutes ces questions-là, mais cela dit, du coup, je renvoie les gens au chapitre qu'Olivier Klein et moi avons écrit, qui, en fait, développe tout ce que j'ai expliqué, mais d'une façon beaucoup plus approfondie et beaucoup plus, on va dire, détaillée, oui.
Ouais. Moi, j'ai une question, peut-être, mais je ne sais pas si tu auras une réponse. Est-ce qu'il y a des études qui évaluent l'évolution dans le temps des croyances de ces personnes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont complotistes à 25 ans et qui ne sont plus à 35 ou quelque chose comme ça?
C'est vraiment pour moi, c'est une question très importante, d'autant plus qu'il y a un petit peu cette... je parlais justement de cette vision, on va dire, qui faisait fi des facteurs sociopolitiques, etc. Et clairement, actuellement, une vision qui est assez importante sur les croyances conspirationnistes génériques, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement stable dans le temps. Mais à ma connaissance, il n'y a justement pas de travaux qui se sont penchés sur la stabilité de ça, mais genre à vraiment long terme. C'est un champ de recherche qui a explosé en quelques années. Ça fait même pas 10 ans que les gens font des recherches dessus, donc évidemment, ouais. Savoir si les gens sont toujours... Après, des exemples particuliers, on connaît tous des gens qui ont été conspirationnistes et qui ne le sont plus, alors des gens qui l'étaient à l'époque qui le sont devenus. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que... comment dire... Dans quelle mesure est-ce que ces cas sont rares, c'est-à-dire les cas de changement de vision du monde radicaux en matière de croyances en des forces obscures qui contrôlent le monde. Mais donc voilà.
Ouais, parce que c'est vrai que ça, c'est une question qui serait intéressante, hein, parce que c'est lié notamment aussi à la pertinence d'essayer de discuter avec ces personnes ou de leur donner des arguments parce que ça, il y a une question des effets aussi. Si ça ne produit jamais quasiment d'effet, parfois on peut se demander aussi quel est l'intérêt ou le bénéfice de passer du temps à discuter, par exemple.
Mais le truc, c'est que de façon générale, en fait, discuter, convaincre quelqu'un de quoi que ce soit, c'est très difficile en réalité, et surtout faire abandonner une croyance, qu'elle soit complotiste ou autre. De façon générale, la recherche sur ce genre de sujet montre que c'est extrêmement, extrêmement difficile, et que de façon, les gens s'accrochent à leur croyance, en fait, quelle qu'elle soit. Et que les théories du complot aussi, pour tout un tas de raisons, on a parlé justement tout à l'heure de la question de l'irréfutabilité. Le problème, le complot, c'est genre un objet intellectuel assez particulier, ça veut dire, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui devient vite complètement irréfutable, c'est-à-dire que tu peux toujours rajouter des couches de complot pour expliquer le complot, et si tu n'as pas, on va dire, un socle, vraiment une méthode de d'intégration des preuves et des contre-preuves et tout ça, de mise en balance en fait de l'évidence d'un côté et de l'autre, tu peux facilement, je pense, tomber dans une espèce de spirale qui va rendre le désengagement de la croyance encore plus compliqué.
Tout à fait. Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant de voir des études sur les personnes qui ont radicalement changé en fait de... par rapport à ces croyances, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en croise pas des masses, mais il y en a sur les groupes sceptiques. Moi, j'en connais quelques-unes, par exemple, qui sont arrivées sur nos groupes il y a des années avec des idées très très complotistes et qui à un moment vraiment évolué là-dessus et qui aujourd'hui ne le sont plus du tout et qui parlent un peu de leur parcours de temps à autre. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être des cas relativement rares, bien sûr.
Oui, mais le truc, c'est que ce n'est pas parce que c'est rare que ce n'est pas intéressant. Mais là, justement, on revient à la question des limites de la psychologie quantitative. Et moi, c'est, typiquement, je serais passionné de discuter de ça avec des personnes qui ont eu, comme tu dis, cette déconversion, entre grosses guillemets, et ce retour en arrière par rapport à leur conviction complotiste. Je pense qu'il y a une matière incroyablement riche à explorer là-dedans.
Oui, et je pense aussi que par rapport aux effets des interactions ou des arguments, je pense qu'il peut y avoir une manière un peu plus, peut-être un peu plus bayésienne de regarder ça aussi sur le long terme et de voir que chaque interaction, chaque exposition à des croyances, à des arguments, à des valeurs peut avoir un petit effet qui est cumulatif
ouais.
au fil du temps en lien avec plein d'autres variables évidemment culturelles, familiales, etc. Et que bah, évidemment, il n'y a personne qui va, suite à une discussion, enfin, ou en tout cas pas grand monde, qui va changer radicalement de vision du monde. Ça, c'est clair que c'est un truc qu'on ne
voit
jamais.
Oui, tout à fait. Mais je suis entièrement d'accord avec cette vision.
Voilà, enfin, c'est vrai que voilà, j'ai pas non plus vu de travaux là-dessus. Donc,
Mais le truc, c'est que. En fait, la recherche, c'est aussi un certain nombre de considérations pratiques. Et il n'y a rien à faire, par exemple, faire une étude, c'est-à-dire une étude qui suit une cohorte de sujets sur le long terme, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à mettre en place que genre, une étude corrélationnelle où genre, voilà, même on va recruter genre 1000 personnes sur les réseaux sociaux, bah, ça c'est encore relativement facile à gérer.
Ouais.
Par contre, parvenir à suivre les personnes que tu interviews, à les réinterroger, parvenir à ne pas les perdre, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui est d'autant plus précieux quand ça arrive. Mais très clairement, cet obstacle, on va dire, purement pratique, est, à mon avis, c'est la cause principale de l'absence de recherche de ce type. C'est juste que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place.
Ok.
Donc oui, maintenant que tous ces éléments de contexte ont été, je l'espère, exposés de façon pas trop confuse et relativement compréhensible, je pensais présenter une recherche que j'ai menée avec deux collègues doctorants sur précisément la perception du label théorie du complot par le public. Ce qui m'a en premier lieu donné envie de faire cette recherche, c'est justement ce constat de ce que j'ai appelé tout à l'heure la méta-théorie du complot. C'est-à-dire que les militants conspirationnistes, ils ont aussi une vision conspirationniste de la critique du conspirationnisme. Et ici, là, j'ai mis un exemple introductif qui est extrêmement parlant, je pense. Ça vient d'un blog américain qui s'appelle Corey Zdig. Et il dit très explicitement que il y a des milliers de théories du complot pendant qu'ils sont occupés à nous traiter de conspirationnistes, nous on rassemble les preuves, ils sont démasqués et ce qu'ils prétendent être juste une théorie, c'est la vérité. Et genre la phrase que j'ai mise en gras, c'est que l'usage du label, donc du label théorie du complot, c'est le premier indice qui montre que la vérité est devant vous et qu'ils essayent de détourner l'attention. Et donc là oui, c'est des éléments d'introduction que j'ai déjà développé juste avant. Donc je suis désolé, en fait c'est genre une présentation que j'ai pas bossé beaucoup l'articulation entre les deux parties. Dans cette étude, on a voulu examiner dans quelle mesure est-ce que les croyances génériques en l'existence de complots, donc ce que j'ai décrit un peu plus tôt, vraiment un rejet, voire à une vision conspirationniste de cet acte de ce label théorie du complot. Et donc, on a voulu étudier deux formes de rejet. La première, c'est genre ce qu'on a appelé une vision particulariste de théorie du complot. Et la vision particulariste, c'est une vision des théories du complot qui dit que chaque accusation de complot doit être jugée sans a priori au regard de ses propres mérites. Et les gens qui ont une vision généraliste, comme par exemple les psychologues sociaux, etc., etc., c'est des gens qui pathologiseraient la méfiance envers les autorités politiques et épistémologiques.
Okay.
Et par ailleurs, les tenants de cette approche généraliste, ils auraient tendance à sous-estimer l'existence de vrais complots. C'est l'argumentaire développé par toute une série d'auteurs. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont, on va dire, c'est une petite armée d'irréductibles. La lecture est toujours stimulante. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, comme je le disais, quand on les lit, on voit bien que l'adhésion à une vision particulariste du problème, donc cette idée qu'on ne peut pas parler des théories du complot en général, c'est lié aussi à nos propres croyances concernant l'existence de complot. Et donc ça c'est donc une des critiques qui porte sur l'utilisation du label théorie du complot. L'autre critique récurrente, qui est, on va dire, davantage, elle, pour le coup, vraiment qualifiable de théorie du complot, expliquer la méta-théorie du complot. C'est la croyance selon laquelle le label théorie du complot, ce serait rien d'autre qu'un outil des élites pour discréditer leurs opposants, voire pour cacher des vérités dérangeantes. Et une forme de cette croyance qu'on trouve et qui est assez commune sur Internet, c'est que voilà, théorie du complot, c'est un label qui a été créé par la CIA pour discréditer les versions alternatives à la conclusion de la commission Warren, suite à l'assassinat de Kennedy. Donc. Et les académiques qui étudient le conspirationnisme sont régulièrement, on leur dit que voilà, vous êtes payés par le gouvernement pour nous discréditer, etc. etc. Donc il y a une dimension méta dans cette recherche qui personnellement m'amuse beaucoup. Donc oui, comme je le disais, l'objectif de la recherche, c'est d'examiner dans quelle mesure est-ce que les croyances générales en l'existence de complots sont susceptibles d'influencer la perception du label théorie du complot. Donc, aussi bien sur le positionnement contre la controverse généraliste particulariste, donc c'est plutôt une controverse, on va dire, intellectuelle, en tout cas sur le papier, et aussi par rapport à l'adhésion à cette méta-théorie du complot. Donc, on a réalisé deux études dont l'objectif, c'était de voir est-ce que les croyances génériques en l'existence du complot, telles qu'on les a définies dans la première partie, sont liés à l'expression, à un rejet de l'expression théorique. Et donc, on a recruté sur Facebook, peut-être d'ailleurs qu'il y a des auditeurs de ce podcast à l'étude, parce qu'il y a beaucoup de diététiciens qui ont rempli ce questionnaire. Il avait été partagé, si je me souviens bien, par la tranche anglaise, mais c'était chouette. Où on leur demandait, d'une part, voilà, ce que vous croyez, l'existence du complot, etc., avec les échelles, mais on leur demandait aussi de se positionner par rapport à ce que vous pensez que le label théorie du complot est légitime, illégitime, etc., etc. Et ce qui est ressorti d'une façon vraiment intéressante, c'est que la croyance, le rejet de... Bon, d'une part, l'hypothèse comme quoi les croyances conspirationnistes seraient associées à un rejet de l'expression sont entièrement confirmées, dans le sens où, d'une part, la vision conspirationniste de ce rejet, c'est-à-dire la méta-théorie du complot, comme je l'ai défini, était très fortement corrélée aux croyances générales, à un point tel qu'en réalité, selon les standards statistiques, on aurait pu considérer presque que c'était le même construit sous-jacent. Et d'autre part, ce qui était intéressant, c'est que c'était aussi, donc les croyances conspirationnistes génériques sont aussi liées au fait de considérer que les théories du complot ne peuvent pas être appréhendées comme quelque chose d'homogène. Donc en gros, la question qui était posée aux gens, c'était, on leur donnait des éléments de contexte en disant voilà, les académiques discutent et débattent du est-ce que la notion de théorie du complot est problématique ou pas, et que d'un côté il y a des chercheurs qui ont donc une vision généraliste et que ces chercheurs considèrent que les théories du complot ont suffisamment de points communs pour permettre de tirer des conclusions générales concernant les théories du complot, alors que d'autres chercheurs, eux, ils considèrent au contraire que théorie du complot, c'est vraiment une catégorie un peu fourre-tout et qu'il y a trop de différences entre les théories du complot pour qu'on puisse tirer la moindre conclusion générale. Et qu'en conséquence, c'est l'utilisation de l'expression théorie du complot était trompeuse et que c'est une expression illégitime en fait. Et ce qui ressort, c'est que au plus les gens croient que le monde est qu'il y a dans le monde beaucoup de complots et que les autorités cachent la vérité sur les événements, etc. Ben, au plus ils auront tendance à endosser cette idée qu'on ne peut pas parler de théorie du complot en général. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a donc aussi analysé des réponses à des questions ouvertes, Et ce qui est ressorti de ça, déjà l'intérêt des questions ouvertes, c'est que ça permet d'explorer vraiment la production des participants, et ça c'est quelque chose qui manque cruellement à la psychologie sociale quantitative, je trouve, c'est que les échelles de mesure sont choisies et souvent conçues par les chercheurs eux-mêmes. Les chercheurs ne laissent aucune latitude aux participants pour vraiment exprimer son opinion personnelle. Or là, on a posé vraiment des questions aux participants pour essayer d'un petit peu investiguer la manière dont ils justifient leur position. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce qui est ressorti, c'est que les gens, par exemple, sur la question du rejet de l'expression théorie du complot, ils ont généralement une vision assez nuancée. C'est-à-dire qu'il y a des radicaux qui disent genre « oui, la théorie du complot, tout ça, c'est dans le même sac, c'est du bullshit ». Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent genre « ah non, théorie du complot, il faut absolument faire du cas par cas, parce que sinon c'est que des amalgames, ça n'a aucun sens ». Mais la plupart des gens, en fait, ils ont plutôt une façon de proposer des arguments qui tirent dans un sens ou dans l'autre, tout en reconnaissant que c'est une question extrêmement compliquée, en fait. Donc, c'est vraiment donc ce qui est ressorti globalement de cette recherche, qui a été menée encore par une enquête par questionnaire menée sur Facebook, c'est que les gens, au plus ils ont des croyances conspirationnistes génériques, au plus ils ont tendance à rejeter l'utilisation du label théorie du complot et aussi à croire que c'est un label qui est systématiquement instrumentalisé. Mais en plus de ça, leur position n'est absolument pas. Ils justifient leur position d'une façon extrêmement. Souvent assez nuancée, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, sur la question. Cette recherche nous a permis d'identifier un petit peu des arguments critiques, on va dire, de cette vision généraliste du complotisme. Avec des gens qui expliquent, il y avait quatre arguments globaux qui sont critiques de cette position généraliste, qui sont d'une part à la question de la définition qu'on a soulevée tout à l'heure, effectivement, de manière générale, qu'est-ce que c'est exactement qu'une théorie du complot dans le langage courant, c'est pas vraiment super clair. Deuxièmement, c'est une expression qui questionne sur la prévalence des complots réels. C'est-à-dire que souvent, les gens disent « Moi, je refuse d'employer l'expression théorie du complot parce que les complots réels existent et que l'utilisation abusive de l'expression théorie du complot, c'est une manière de minimiser le rôle des complots réels. » Donc, les complots réels. Et par ailleurs, il y a la charge normative qui est associée au label. J'en sais dire, c'est l'expression théorie du complot, c'est quelque chose d'extrêmement péjoratif. Et donc, ça biaise un petit peu le débat en disqualifiant directement ces croyances. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on voit bien, en analysant les réponses des participants en questionnaire, que tous ces arguments font en fait vraiment écho aux discussions qui ont lieu dans le monde de la recherche. Et je pense que si cet article montre quelque chose, c'est que les chercheurs doivent être attentifs justement à ces remises en question des notions qu'ils utilisent et qu'ils mobilisent, comme la notion de théorie du complot, et être capables un petit peu de répondre justement à ces différentes objections. La question de la caractère péjoratif, la question des vrais complots qui, on est psychologue, on peut mettre à distance la question de la vérité, et ça n'empêche pas que la question est toujours là et elle est importante. La question donc de l'instrumentalisation politique qui est aussi évidemment centrale et qui peut avoir des expressions conspirationnistes mais qui est aussi des expressions parfaitement avérées où le label théorie du complot peut être utilisée à des fins vraiment de disqualification rhétorique. Et donc voilà, je je sais pas si tu...
Non, ça me paraît clair, cette partie-là. Bon, j'ai pas vraiment de questions sur la recherche en question. Je pense que t'as bien décrit ça, quoi.
Mais j'espère que ça va... Oui, c'était un petit peu... C'était beaucoup plus freestyle en partie, mais...
J'ai peut-être une question du coup, mais qui n'est pas sur ta recherche, mais est-ce que y a des dans le futur, est-ce qu'il y a des recherches dans ce domaine-là que tu aimerais bien faire sur certaines questions ou certaines thématiques?
Bah, c'est-à-dire que moi, une question qui me. Je suis en train de mener une recherche là-dessus. C'est une question qui est vraiment importante pour moi et qui m'intéresse énormément, c'est la question des conséquences de la stigmatisation des théories du complot, en fait. Et je suis en train donc d'écrire quelque chose là-dessus avec un petit peu cette idée que les théories du complot en tant qu'objet d'étude en psychologie sociale, ça correspond à un certain nombre de caractéristiques, mais l'utilisation du label a aussi on va dire, des conséquences qui sont peut-être un petit peu imprévisibles dans le sens où on parle des théories du complot de façon générale comme ça, les chercheurs comme les médias. Et la question que je me pose, en fait, c'est dans quelle mesure est-ce que ces discours vraiment généraux sur les théories du complot sont susceptibles de créer peut-être quelque chose de l'ordre d'un sentiment de solidarité entre des gens qui, a priori, n'avaient peut-être absolument aucun rapport les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a, des similitudes dans la structure de certains arguments et tout ça, mais par exemple, entre un militant de ReOpen 9/11, un platiste et je sais pas moi, un anti-vax, personne ne sont qualifiés de conspirationnisme, mais il y a aussi une quantité incalculable de choses sur lesquelles ils sont probablement complètement aux antipodes. Donc moi, je m'intéresse un petit peu à dans quelle mesure est-ce que ce label infamant de conspirationniste, de complotiste, est susceptible de créer de la solidarité en fait parmi les complotistes.
Oui, c'est une question tout à fait pertinente, hein. Et le fait dans la discussion en elle-même, dans les dialogues, le fait de les étiqueter de cette manière, les renvoie aussi dos à dos, en fait, hein. Et j'ai déjà vu, notamment sur certains groupes, on a des gens qui sont parfois qualifiés un peu de conspirationnistes, tout relativistes, etc., et qui se retrouvent parfois, du coup, un peu éjectés ou exclus de certaines plateformes, et qui un peu automatiquement se retrouvent à migrer sur d'autres plateformes plus marginales, sur lesquelles ils vont retrouver un peu tous les gens qui sont exclus des groupes rationalistes standards, en fait. Et
Mais tout à fait,
donc
oui.
ces gens qui sont, comme tu dis, de différents bords se retrouvent en même temps. Alors t'as un complotiste qui se retrouve avec un antisémite, qui se retrouve avec un défenseur du relativisme, qui se retrouve avec un schizophrène qui défend des théories farfelues. Enfin, ouais, et tous ces gens s'agrègent parce qu'ils sont un peu rejetés en marge comme ça des espaces de discussion classiques. Et c'est vrai que ça a probablement sur les personnes, quoi.
Oui, tout à fait. Mais c'est exactement ce que je décrivais. Après, c'est une façon. Oui, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Moi, j'essaie de créer ça expérimentalement, mais c'est un sacré challenge.
Oui, c'est sûr.
Ouais. Bah,
Ok.
écoute.
Bah, je sais pas, est-ce que tu as un mot de la fin ou une conclusion par rapport à tout ça pour les auditeurs?
Oh là là, une conclusion pour les auditeurs. Oui, c'est vrai que c'est un podcast, j'avais oublié. non. Bah, en conclusion, je pense que je renverrai aux deux écueils que j'ai décrits au début du podcast, en fait. Genre, le conspirationnisme, c'est une question extrêmement complexe. Il y a des aspects, on va dire, performatifs aussi au discours qu'on tient sur le conspirationnisme. Donc, le discours qu'on tient sur le conspirationnisme influence le phénomène conspirationniste. Et il faut avoir conscience que c'est quelque chose d'extrêmement complexe avec énormément de facettes. Et ne pas tomber ni dans l'écueil de la pathologisation qui refuse, enfin qui en gros fait de l'adhérent à ses croyances une personne irrationnelle, bref, biaisée, etc. Enfin bref, en gros, une vision complètement en fait décontextualisée et dépolitisée du conspirationnisme. Mais de l'autre côté, je pense que le travers qui consiste à dire que les gens, enfin que la que la que le cons la théorie du complot, ce n'est que l'opinion marginale. Face au pouvoir, ou alors que l'idée que la théorie du complot et la connaissance, finalement, ce sont juste les deux extrémités des asymétries de pouvoir. C'est aussi une vision des choses qui est potentiellement assez dangereuse. Et donc, du coup, aussi avoir toujours un regard on va dire, toujours un regard critique quand on reçoit, mais genre, on va dire authentiquement critique quand on lit, par exemple, de la psychologie sociale ou de la recherche scientifique sur ces questions-là, garder à l'esprit les limites méthodologiques, mais aussi les points forts, et je pense qu'il y en a. Encore une fois, je renvoie ce que j'ai dit, mais aussi au chapitre qu'on a écrit avec Olivier Klein. Et voilà, tout simplement, rester rigoureux, prudent et voilà. Mais bienveillant surtout, histoire de terminer vraiment sur les paillettes et les bisounours.
Ok. Ben, je te remercie en tout cas pour cette double présentation. J'espère que ça aura pu intéresser les auditeurs. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant et clair pour ma part. Et voilà, donc merci d'être venu et ben, je te dis à une prochaine fois.
Merci, à la prochaine, Jérémy.